Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique. Un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Dans l'agenda entre Noël et la nouvelle année, nous avons noté la date du mercredi 27 décembre. C'est une date assez particulière et qui résonne tragiquement dans la mémoire ouvrière du bassin minier, puisque 43 ans en arrière, le 27 décembre 1974, 42 mineurs étaient tués dans la dernière grande catastrophe minière en France, à la fosse 3 de Liévin. Depuis, chaque année, une commémoration officielle se tient. À côté de cette commémoration officielle, un collectif militant s'organise pour rappeler que cette catastrophe minière n'a rien d'un coup du destin, mais que ce sont les houillères qui sont pleinement responsables des catastrophes minières. Ainsi, ce 27 septembre 2017, le collectif vous propose un hommage à 10h30 au pied de la stèle qui a été érigée en 1975 par la Commission populaire d'enquête. Un hommage aux 42 mineurs envoyés à la mort par les houillères. Ce sera à 10h30, rue des Six Sillons à Liévin, au cœur du quartier de Saint-Amé, à l'emplacement de l'ancienne fosse 3, siège de la catastrophe. Rappelons que ce collectif se mobilise par ailleurs pour la mise en place d'un mémorial avec une visée plus large. Il s'agit d'un mémorial en hommage à l'ensemble des victimes du capitalisme. Le financement de ce mémorial est assuré par voie de souscription. Toutes les infos sont sur le site auxvictimesducapitalisme.fr. Eh bien, je vous propose maintenant une première pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Comme toujours sur Micro Rebelle, il s'agit de musique libre. Et aujourd'hui, je vous invite à retrouver nos amis du groupe toulousain Bruit qui court au travers de leur album « Que la nuit m'emporte ». On commence par un premier titre, « Je n'ai pas peur ».
C'est des larmes sur nos mains, quand nos poings auraient dû se fermer, quand nous n'étions pas, quand nous n'étions plus. Ils ont versé des larmes sur nos rêves et nos frissons, sur leurs fantasmes et leurs mensonges. Ils ont déversé leurs coups de pompe, leurs bêtises absurdes remplies d'un peut-être quand nous, nous n'en rêvions plus. elles ont menacé nos mères, nos frères, de ne plus jamais voir les lumières, de ne plus jamais avoir le choix. Mais je n'ai pas peur, et toi non plus. Je n'ai pas peur, et toi non plus. Ils ont versé des larmes sur nos mains quand nos poings auraient dû se fermer. Et nous, absents une fois de plus, quand seuls ils pensent être tous, quand seuls ils pensent être nous et que nous n'existent plus. Et depuis si longtemps, ils ont enfoncé les portes, ils ont menacé les faibles et les forts de ne plus jamais avoir le choix. Mais notre rage n'est jamais qu'endormi, quand notre bruit réveillera les morts. Notre rage baisera leur nuit. Notre rage baisera leur nuit. Je n'ai pas peur, et toi non plus. Je n'ai pas peur, non. Et toi non plus.
Maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Nous commençons par revenir sur la marche pour le climat qui s'est tenue à Lens la semaine dernière. C'est un reportage que nous propose Luc.
Ce mardi 12 décembre, alors que la France ouvre, 2 ans après l'accord de Paris, son sommet climatique One Planet Summit, la mobilisation, elle aussi, s'organise. À Lens, à l'initiative d'Attaque et de Ouyouyouy, s'est déroulée une déambulation aussi joyeuse que sonore et qui a rassemblé une bonne trentaine de personnes. Si le projet de financement de la transition énergétique paraît légitime, l'opération de communication pour reverdir la finance pourrait tourner au fiasco à l'heure où l'on apprend que l'épargne populaire des Français subventionne des projets tels que l'exploitation pétrolière dans l'Arctique, la mine de charbon d'Ambach en Allemagne ou encore le Dakota Access Pipeline. Plus généralement, c'est la tiédeur des décisions politiques en matière d'environnement et les connivences entre finance et développement durable qui sont contestées.
Je suis Christine Poyi, je fais partie du collectif Ouyouyouy et d'Attaque.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'objet de cette manifestation au rond-point Bollard à Lens ?
Alors aujourd'hui, M. Macron a convoqué à Paris un sommet intitulé « Climat-finance ». Et nous, on se dit que confier la lutte contre les changements climatiques à la finance, c'est-à-dire à ceux-là même qui les ont provoqués, c'est un petit peu se moquer du monde. Et on entend dénoncer ce sommet climat-finance.
Néanmoins, ce sommet climat-finance est censé faire suite donc aux accords de Paris et a pour but de trouver des financements parce qu'il faut bien de l'argent pour financer la transition énergétique. Donc c'est un peu difficile de s'opposer à ça.
Alors bien évidemment qu'on ne s'oppose pas à la transition énergétique, c'est une évidence. Bien sûr, c'est la date anniversaire de la COP21 qui a eu lieu à Paris en décembre 2015. Sur la COP21, tout le monde a célébré ça comme une véritable victoire. Mais nous, on pense que c'est pas du tout une victoire suite au fait qu'il n'y a eu aucun engagement contraignant des pays et que les multinationales ont juste continué leur business habituel. Et l'objet de ce sommet climat-finance, c'est aussi de les aider à continuer leur business habituel, parce que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que, certes, il faut passer à la transition énergétique, on en est bien loin, puisque M. Hulot vient d'annoncer que la loi sur la transition énergétique ne serait pas respectée, puisqu'il repousse la fermeture des centrales nucléaires. L'investissement dans les énergies renouvelables, on est le quatrième pays européen en partant par les plus nuls. Donc oui, certes, il faudrait financer la transition énergétique, mais nous, on souhaiterait la financer par de l'argent public et par des groupements citoyens. On souhaiterait reprendre le contrôle sur la production d'énergie.
Ce que tu es en train de dire, c'est que non seulement depuis 2 ans, il n'y a eu globalement aucune avancée majeure en matière d'investissement pour la transition énergétique, mais qu'en plus de ça, les investissements dans les énergies fossiles, carbonifères, pétrolifères ont continué.
En fait, en septembre dernier, le gouvernement a présenté une loi qui était censée être la fin des hydrocarbures. Ça, c'était l'intitulé de la loi. Sauf que ça ne concerne que les 1% des hydrocarbures produits en France par rapport à ce qu'on consomme. Que même pour ces 1%, il y a eu de notables reculs, puisque on voit bien dans notre région l'exploitation des gaz de couche, par exemple, qui va commencer. C'est toujours de l'énergie fossile qu'on exploite. Et cette loi ne dit absolument rien sur ce qui concerne les 99% de notre consommation, c'est-à-dire tout ce qu'on importe et donc tout ce que les multinationales produisent. Il faut voir que ce sont quand même les plus gros pollueurs et qu'ils n'ont pas intérêt à la fin des hydrocarbures. Les scientifiques ont lancé un cri d'alerte depuis 1970 avec le rapport Meadows. 1992, c'était le premier sommet de la Terre et il y a 1700 scientifiques qui lançaient des cris d'alerte pour dire qu'il fallait réduire nos émissions de gaz à effet de serre et changer de modèle de production. On est en 2017. Et là, il y a 15 000 scientifiques de toute la planète qui viennent de lancer un cri d'alerte pour dire que tous les signaux étaient dans le rouge écarlate de ce coup-là, que tout avait empiré, que ce soit la déforestation, nos émissions de gaz à effet de serre, l'acidification des océans, etc., etc. Soit à dire, rien n'a changé. Or, on est dans l'urgence et il faudrait vraiment tourner le guidon.
C'est sorti hier dans le magazine Basta, qui publie un article, alors non seulement sur l'épargne populaire des Français qui est réinvestie dans des entreprises extrêmement polluantes, oléoducs aux États-Unis en Antarctique, enfin divers énormes projets dans lesquels l'épargne des Français est investie. Et à côté de ça, en convoquant ce sommet à Paris, le président Macron essaye de faire de Paris et de sa présidence la capitale et l'ambassade de la finance verte. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de ça ?
Que c'est juste de la communication, comme beaucoup de choses que fait M. Macron, c'est juste de la communication. Il veut faire de Paris la capitale verte, sauf qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il soutient réellement comme politique en France, il y a un pas de géant. Je pense par exemple aux accords de libre-échange. Monsieur Macron est tout à fait en accord avec ces accords de libre-échange, puisqu'il le CETA vient d'être mis en application provisoire. C'est confier le pouvoir aux multinationales. Ça ne fera que leur redonner du pouvoir. Et un jour, on se dira, c'est quand la COP65 ? Et rien n'aura changé. Donc je pense vraiment que maintenant, on est dans l'urgence et c'est à nous, citoyens, de faire pression sur nos gouvernants pour les obliger à changer de braquet.
Est-ce que tu pourrais nous préciser tout l'intérêt et la pertinence d'organiser un rassemblement contre le sommet climatique dans un secteur où on envisage plus que sérieusement d'exploiter les gaz de couche et les gaz de schiste?
Oui, je pense que Christine a beaucoup insisté sur l'aspect global de la lutte contre le climat et le lien avec ce qui se passe à Paris. Le problème au niveau du gaz de couche, c'est qu'on est dans une situation où si on ne veut pas périr au niveau de l'humanité, il faut laisser au moins 80% des énergies fossiles dans le sol. Donc ça veut dire qu'on en est loin. Et pour l'instant, toutes les multinationales font semblant de ne pas exploiter, extraire des mines, etc. Et en France, le problème qu'on a, c'est un problème à la fois de gaz de schiste et de gaz de couche. Alors pour l'instant, le gaz de schiste, on n'en parle pas trop parce que c'est beaucoup plus difficile à récupérer à cause de la technique qu'il faudra utiliser, tandis que le gaz de couche, on l'a déjà au niveau de la loi soi-disant extraordinaire votée avec Nicolas Hulot. Eh bien, on a laissé de côté le gaz de couche parce qu'on fait croire que le gaz de couche n'utilisera pas la fracturation hydraulique. Et donc, cette fracturation hydraulique, elle sera obligatoire si on veut exploiter véritablement le gaz de couche de façon industrielle. Donc, ça veut dire que la loi est très mal faite et en tout cas, il va falloir qu'on se batte. Surtout quand on voit ce qui se passe en Lorraine. C'est-à-dire qu'en Lorraine, actuellement, ils sont en train de faire... L'entreprise qui s'occupe de cette problématique est en train d'expérimenter. Et pour l'instant, c'est un fiasco. On espère que ça continuera à être un fiasco. D'autant plus que s'ils sont en difficulté en Lorraine, ils risquent de ne pas pouvoir venir dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut crier victoire tout de suite, parce qu'ils ont les moyens financiers, ils ont un certain nombre de moyens financiers, et actuellement, ils vont venir dans le Nord, parce que ce ne sont pas les mêmes conditions, mais il y aura moins de problèmes techniques, sauf qu'ils auront des couches de charbon qui sont nettement moins épaisses, et donc ils auront d'autres problèmes. La difficulté, ce sera toujours la même. Hein. C'est-à-dire, ça sera d'essayer de récupérer le méthane dans les tuyaux. Et récupérer le méthane dans les tuyaux, pour nous, c'est impossible. On récupère une partie, mais il y a une autre partie qui s'en va, qui s'infiltre dans les failles, qui aura été créée à cause de la fracturation hydraulique. Donc, il y a ça. Et évidemment, toute la problématique de l'eau, j'insiste pas trop dessus, parce que ça commence à être connu. À la fois l'eau qu'on injecte, et l'eau qu'on va polluer dans les nappes. Donc tout ça fait qu'on va avoir une situation où il faut essayer de se battre le plus possible pour empêcher qu'on ait encore des difficultés dans des régions qui ont déjà été industrialisées à fond la caisse avec le charbon.
Alors est-ce que tu pourrais apporter une précision sur un chiffre que tu as donné, c'est cette histoire de 80%, de laisser 80% des ressources fossiles dans la terre pour assurer la survie de l'espèce humaine. En quoi ça consiste exactement ?
Alors en fait les 80% c'est une estimation qui a été faite au niveau mondial pour empêcher qu'il y ait trop de gaz à effet de serre. Et ça veut dire qu'on est actuellement on est dans une ère archi-productiviste et on va se retrouver, si on continue comme ça, avec un réchauffement non pas de 1,5 ou 2, comme ça a été promis en 2015, mais les promesses n'engagent pas obligatoirement leurs auteurs. Et donc on va arriver à 3 ou 4 degrés d'augmentation de la température à la fin du siècle. Ça veut dire que si on n'est pas capable, dans le domaine de l'extraction, de se limiter, et ça on n'en prend pas le chemin, hein, quand on voit un petit peu un certain nombre de pays où ils ont voulu faire l'effort de ne pas extraire, ils ont fait marche arrière parce que c'est rentable. Parce que c'est rentable sur le moment, hein. Mais ça ne sera pas à long terme. Alors ça, c'est un des aspects de la problématique du climat. Hein. Ça n'est pas le seul.
Un rassemblement en faveur d'une prise de conscience de l'urgence climatique qui s'est terminé par un concert de casseroles devant l'hôtel de ville de Lens. Retrouvez davantage d'informations sur ces sujets sur le site attaque-artois-ternois-lagoel.org ou sur le site du collectif ouyouyouy5962.fr. C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier. Retrouvez toutes nos émissions et reportages sur microrebelle.fr.
Place maintenant à notre deuxième pause musicale, toujours avec Bruit qui court et leur album Que la nuit m'emporte. Le morceau qui suit s'intitule « Eux n'existent pas ».
Laisse la parole à ceux qui n'ont rien à dire, plutôt que te mêler au brouhaha, à ces cris, à ces vieilles querelles indécentes. Laisse-leur la parole, mais n'oublie jamais que leurs mots sont vides et que le vide mène au silence, et qu'un jour plus tôt qu'ils ne le pensent, nous parlerons à leur place et nous chanterons à leur place. Et quand le silence aura gagné, nos bruits sortiront de l'ombre, nos bruits montreront que nos idées, que nos mots et nos refrains sont emplis de ceux qu'ils n'auront jamais. La poésie et les mains serrées devant leurs millions de regards baissés devant l'abandon du beau devant l'abandon du politique devant l'abandon de tout ce qui faisait que nos musiques étaient belles. Alors laisse la parole à ceux qui n'ont rien à dire et dis encore et toujours. Dis-le pour exister, existe. Eux n'existent pas.
Nous poursuivons notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Il s'agit maintenant de la police de sécurité du quotidien. C'est un sujet, une nouvelle fois réalisé par Luc, avec notamment l'interview du préfet du Pas-de-Calais et de l'adjoint à la sécurité de la ville de Lens.
Police de sécurité du quotidien, un reportage de Luc pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier. Promesses de campagne et discours en grande pompe oblige, le mois de novembre a vu se dérouler dans toutes les préfectures et sous-préfectures de France une consultation express au sujet de la création d'une police de sécurité du quotidien. Ne dites surtout pas retour d'une police de proximité, bien qu'évidemment tout s'y apparente. Par cette petite pirouette lexicale, le gouvernement Macron prétend néanmoins rompre avec une culture répressive et sa politique du chiffre, pour au contraire favoriser une police au contact de la population et avec un rôle davantage préventif. Si bien évidemment des moyens seront alloués, on prévoit une hausse d'1,9% du budget en 2018, une rénovation des locaux, 30 000 véhicules de sécurité livrés d'ici 5 ans, des gilets pare-balles, des tablettes numériques et la création de 10 000 postes d'ici 2022, c'est bien d'une métamorphose dont il s'agit. Un changement de paradigme qui doit redéfinir une police au contact des citoyens, une police plus proche de sa population, une police main dans la main avec les diverses organisations sociales et institutionnelles. Le brouhaha léger s'est rapidement dissipé lorsque le préfet Sudry a rappelé le pourquoi de notre présence. Il faut revenir aux missions premières du métier de policier avant que la fracture ne rende irréconciliable la profession et la population. Nous planchons ce jour sur deux grandes thématiques.
La première, donc sur les leviers pour renforcer les partenariats avec les élus et les autres acteurs de la sécurité.
Léonie Bartin, de l'École normale supérieure, chargée de l'exposé.
Donc vous voyez qu'il y a deux questions pour lancer un peu le débat, mais évidemment, je vais évoquer des sujets qui débordent de questions. Donc comment renforcer la coopération avec l'autorité judiciaire et redynamiser les partenariats locaux avec les élus et les autres acteurs de la sécurité quotidienne ? Et comment garantir un continuum local de sécurité, donc notamment en association avec les polices municipales, la sécurité des transports et les professionnels de la sécurité privée. Et la deuxième thématique qui concerne les vecteurs pour renforcer le lien avec la population, donc comment mieux prendre en compte les attentes de nos concitoyens, faciliter davantage l'accès aux services publics de la sécurité, comment mieux rendre compte à la population de l'action des forces de l'ordre, et également comment développer la participation citoyenne à l'action de sécurité.
En réalité, il s'agit principalement de reconquérir une population insatisfaite du climat de sécurité actuel, et donc de redorer l'image à la fois de la police et de la justice, de donner à croire en son efficacité et en son rôle pour la République et l'action sociale. En filigrane, une critique évidente du système tout répressif et en sus de la politique du chiffre qui a prévalu ces dernières années. Ainsi, la police doit devenir
coproducteur de la résolution des problématiques de sécurité. Il y a tout un champ qui vous est ouvert, qui nous est ouvert à vos côtés, pour résoudre un certain nombre de problèmes et de difficultés qui ne passent pas par le schéma classique de l'arrestation, de l'interpellation, de la condamnation pénale. Je crois qu'on en a fait le tour, on s'est aperçu des limites de ce système. Et puis...
Dixit, le directeur de la Sûreté publique du département du Pas-de-Calais, et autour du commandant du groupement de gendarmerie d'ajouter...
De la prévention. Typiquement sur l'action amont, renseignement, détection, prévention, signalement, accompagnement. Et c'est là où cette coproduction de sécurité a toute sa pertinence.
Nous avons ensuite eu droit aux doléances des maires... co-responsable de la tranquillité publique est bien évidemment motivé par le sujet et le renforcement de la coopération entre les mairies et les forces de l'ordre. Mais au final, peu de propositions concrètes, car là n'est peut-être pas le problème. Cette concertation vise visiblement un plus grand projet éducatif.
Des plaintes, la commission des infractions, tout ce qui peut tourner autour. On sent bien que là, nos concitoyens, hésitent un peu, ne comprennent pas bien. Donc, peut-être que cette démarche sera l'occasion de bien mettre les choses à plat. Une des intentions du gouvernement également, ça, à mon avis, participer de cette simplification, de cette compréhension.
Il faut éduquer la population en matière de civisme et de sanctions pénales. Il faut éduquer les agents de police à l'empathie principalement et à la communication sereine. Et enfin, éduquer les élus, les responsables de la société civile, pour qu'enfin nous retrouvions un climat apaisé. L'objectif étant de réconcilier population et professionnels de la sécurité pour que nous tous concourions en toute complicité à œuvrer pour une atmosphère de tranquillité, au rétablissement de l'ordre et à un climat apaisé dans tous les quartiers sans distinction. Si la consultation s'est déroulée dans le calme et si nous avons évité le sujet de la radicalisation, nous avons senti poindre à un moment quelques relents d'hygiénisme social. Car au final, le rôle de cette police de sécurité du quotidien n'est-il pas de lutter contre toute cette petite délinquance, ces petites infractions et délits qui nuisent au bien-être des citoyens? Le problème majeur qu'on traite ici, ce sont les incivilités dont il faut durcir le traitement.
Ça va des petites incivilités de petits jeunes sur les quais ou dans les trains qui, pardonnez-moi le mot, mais pourrissent le quotidien des gens qui vont au travail ou qui reviennent du travail, ou de familles qui vont tout simplement se promener. C'est pas punissable et on n'en vient pas à bout. J'ai un exemple concret sur l'Hivercourt, qui n'est pas le secteur d'Arras, mais c'est pas loin, où on a des petits jeunes hein, de 14-15 ans qui montent dans les trains tous les jours, qui en descendent, qui en remontent, qui tirent les signaux d'alarme, qui crachent, qui insultent les voyageurs, qui crient. Techniquement, c'est pas très répréhensible, et pourtant, ça pourrit le travail de mes agents.
Et si pour une police sur mesure, il est étonnant qu'on fasse l'économie jusqu'ici d'une réflexion sur les disparités du territoire, on peut d'ores et déjà se rassurer, car c'est bien d'une police de terrain dont il s'agira.
Une police, elle est à l'image de sa société. Hein. Quand la société est faible, la police est faible. Quand la société se prend en main, sa police est forte. Donc, on a suivi également ce mouvement. Pour répondre à vos questions, la police de sécurité au quotidien, c'est, on l'a dit, je le préfère, c'est avant tout un état d'esprit. C'est une démarche en direction des besoins exprimés par la population.
Une police qui serre des mains, qui revient vers les gens, et une profession qui doit accepter une certaine rupture dans l'état d'esprit.
Il y a typiquement une reconquête de notre culture d'origine, hein, parce que quelqu'un qui endosse l'uniforme, il a forcément la vocation du contact, et de travailler sur la posture où l'acte quotidien est individuel, sans parler de réunion d'organisation. Prendre le temps gratuit d'aller serrer des mains, de s'arrêter pendant sa patrouille, avoir des commerçants qui ne sont pas encore victimes ou qui n'ont pas encore été auteurs, ou l'automobiliste lui parler dans d'autres circonstances que comme il commet une infraction. Et on va recréer ce lien. Donc il faudra accepter une rupture dans les schémas traditionnels. Plus de prévention, mais surtout plus de contact humain.
Et malgré le fait que la délinquance diminue dans le Pas-de-Calais, selon les mots même du préfet, il n'est pas anodin en ces temps de politique sécuritaire de réfléchir au concept de policier, de renouveler l'idée du policier idéal, réactif, efficace, connecté, disponible, coopérant et sympathique, pourquoi pas. À présent, parole au préfet Sudry, interviewé en marge de cette conférence et qui répond à la question de savoir si ce changement de philosophie dans la police répond à un besoin d'éviter les bavures telles que l'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois ou à un abandon pur et simple de la politique du chiffre telle qu'elle a prévalu ces dernières années.
Écoutez, je crois qu'en réalité, ce qui sous-tend cette démarche visant à introduire cette police de sécurité axée sur la vie quotidienne de nos concitoyens, c'est l'idée de retrouver finalement les principes fondamentaux de l'action de police. Hein. La police, la gendarmerie dans notre pays, à quoi sert-elle? Elle sert à travers un service à la population à réprimer les crimes et les délits, mais dans un climat de coopération, de dialogue et de confiance avec la population. Et même si nos policiers, nos gendarmes sont des professionnels extrêmement engagés qui font de l'excellent travail, sur un certain nombre de sujets, dans un certain nombre de domaines, une distance s'est créée entre nos forces de l'ordre, la population et aussi les acteurs, les élus des différents territoires. Donc il faut retisser ces liens, retrouver ces coopérations, ce climat de confiance qui est tout à fait possible et indispensable entre nos concitoyens et les forces de police qui la servent.
Au-delà d'un climat de confiance, comme vous dites, on peut également se poser la question de savoir si la réforme ne vise pas à combler en quelque sorte un déficit d'image.
Je ne sais pas si c'est l'enjeu fondamental. Je crois que fondamentalement, nos concitoyens ont confiance dans leurs forces de l'ordre. Ils savent très bien que quand il y a des problèmes majeurs, ce sont les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers qui sont à leur disposition et qui assurent leur sécurité. Simplement, parfois, ils ont l'impression que c'est un peu compliqué à aborder, que les dépôts de plaintes ne sont pas très faciles, que sur certains faits liés à la sécurité de leur quotidien, notamment les incivilités, il n'y a pas une réponse suffisante, immédiate. C'est tout cela qui participe d'une forme de défiance relative, mais qui existe quand même par rapport à la réponse publique. Donc il faut mettre tous ces sujets sur la table, en parler et voir comment on peut, c'est tout à fait, je pense, à notre portée, si on priorise les choses, si on donne quelques moyens d'action, si on renouvelle les coopérations, si on aborde directement la population dans une relation directe avec elle, c'est tout à fait possible de résoudre ce type d'interrogation.
Très bien, développer un climat de confiance, faire en sorte que la police soit vecteur également d'apaisement, ça, c'est un peu ce qui ressort. En revanche, est-ce que cette coopération entre différents secteurs, les bailleurs sociaux qu'on a pu entendre aujourd'hui, les polices municipales, les gendarmes, également les déclarations qui ont été faites sur la systématisation des contrôles vis-à-vis des illégaux sur le territoire français, est-ce que ça peut pas aussi générer un climat de défiance par rapport au fait qu'il y ait une espèce de contrôle et de surveillance généralisée. En quelque sorte, cette augmentation de la présence policière pourrait également favoriser ce climat de surveillance généralisée.
Il n'y a pas de directive particulière sur des contrôles, comme vous dites, des illégaux. Je ne sais pas vraiment ce que ça recouvre.
C'était le discours initial du président Macron. Il avait quand même largement insisté quand il inaugurait ses consultations sur le problème des clandestins.
Il ne parlait pas forcément des illégaux. Il disait simplement que les contrôles sont utiles, mais ils ne sont pas suffisants. Et ils ne peuvent pas résumer à eux seuls l'action de police. L'action de police, elle passe par de la coopération, de la compréhension, du dialogue avec la population et sur la résolution de leurs problèmes quotidiens. C'est ça qu'il voulait dire. Donc il faut recentrer, renouveler cette action de police avec un état d'esprit renouvelé qui consiste à faire en sorte que nos policiers et nos gendarmes soient peut-être plus à l'écoute de leurs concitoyens et en lien avec leurs représentants de manière plus efficace, plus directe, plus opérationnelle, plus interactive, plus connectée.
Très bien. Une dernière question qui concerne la simplification des procédures pénales qui est censée accompagner justement cette mise en place de la police de sécurité du quotidien. Étant donné que ça concernera davantage les petits délits, les incivilités, les infractions, est-ce que ça tendrait pas à favoriser un système de punition un peu facile en fait ? C'est-à-dire qu'on met plus de policiers dans la rue avec un rôle peut-être un peu plus limité, mais qui peuvent facilement taper sur les doigts des jeunes délinquants.
Non, l'idée, si vous voulez, sur la simplification des procédures pénales, c'est une idée finalement assez simple que chacun peut comprendre. C'est l'idée de dire que les policiers et les gendarmes doivent être au contact de la population pour avoir cette confiance, le plus en contact possible, maintenir ces liens indispensables. Et pour avoir cette disponibilité de temps, il faut décharger nos forces de l'ordre de tâches chronophages liées aux procédures, liées à des tâches aussi administratives, qui les fixent dans leur bureau au détriment de cette fonction essentielle de présence sur le terrain et de contact avec la population. C'est ça la simplification des procédures pénales. Ça participe justement de ce retour dans l'espace public ou au contact de la population, des policiers et des gendarmes. Je crois qu'il ne faut pas surinterpréter non plus. C'est ça l'objectif. Et ce contact, il passe aussi, je crois qu'il y a une demande de nos concitoyens, par une action de police qui consiste à pouvoir réprimer plus rapidement les délits mineurs. Il y a parfois, du fait de la durée des procédures, le sentiment que il y a une forme d'inefficacité de la puissance publique. Et ça, c'est très dommageable. Parce que nos concitoyens doivent avoir confiance dans l'autorité de l'État. qui est absolument nécessaire pour permettre la bonne régulation de notre société, permettre aussi l'exercice des libertés de chacun. Hein. Mais une société qui fonctionne bien, ce n'est pas une société avec un État faible.
Et maintenant, Pierre Mazure, conseiller municipal de la ville de Lens pour la sécurité et la lutte contre les nuisances, nous explique les raisons de la candidature de la circonscription de police de Lens à l'élection de ville d'expérimentation de la police de sécurité du quotidien.
La ville de Lens, et comme la ville de Salomine d'ailleurs, sont candidates pour l'expérimentation. Alors pourquoi ? Plusieurs raisons. La première raison, c'est que la ville de Lens et la ville de Salomine sont classées en zone prioritaire. C'est la première raison. La deuxième raison est que la circonscription de police de Lens est la 9e circonscription de France. Alors, on ne peut pas demander à l'expérimentation sans aussi nous faire les efforts nécessaires. C'est la raison pour laquelle Monsieur le maire et moi-même, et je peux même dire l'ensemble de mes collègues, entretiennent les meilleures relations avec les services de police du commissariat central de Lens. À telle enseigne que nous avons participé, parce que cette expérimentation, nous, ça fait un petit moment à Lens qu'on l'a commencé, nous avons participé à l'achat de vélos, de VTT, pour un certain nombre de policiers qui véhiculent, qui vont déjà à la rencontre des jeunes, qui vont dans les cités, et si je parle de cités, c'est pas par hasard, je vais y revenir dans quelques instants, dans les cités, à la rencontre des jeunes, à la grande résidence. Et je peux vous dire que c'est 10 ou 12 policiers dédiés à cette mission en VTT font un travail exceptionnel et extraordinaire. Alors pourquoi ? Bah tout simplement parce que nous sommes tous des enfants de mineurs ou on a connu à l'époque, et cette culture est restée dans le bassin minier. On a connu à l'époque ce qu'on appelait les gardes des mines. Et les gardes des mines, c'est les gens qui étaient payés. J'étais pas d'accord avec tout ce qu'ils faisaient, hein, parce qu'ils ne faisaient pas que surveiller si les trottoirs étaient propres. Mais en tout état de cause, c'est des gens qui faisaient la police dans leur cité. À côté des habitants. C'est eux qui se permettaient de frapper à la porte en disant « Attendez, vous avez rentré votre charbon, mais vous n'avez pas lavé le trottoir. » Voilà. Voilà une des raisons pour laquelle nous sommes candidats pour expérimenter cette police que le ministre de l'Intérieur nous a proposée. Et je suis sûr, je suis persuadé que le territoire de la ville de Lens est un laboratoire incroyable, contournable à cause de ce que je viens de vous dire.
Il a été dit que ce serait une police sur mesure. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ce serait cette police à la mesure d'une ville ou d'une agglomération telle que Lens, et quelles sont les attentes en matière de sécurité pour ce territoire en particulier ?
Je ne sais pas ce que vous appelez une police sur mesure. Moi, je ne sais pas vous répondre ce que c'est qu'une police sur mesure. Pour moi, il n'y a qu'une police. Qui fait la police, qui fait de la prévention, qui fait de la répression quand c'est nécessaire, et qui est capable d'aller au contact des gens, et c'est ce qui... Enfin, je me répète, mais quand c'est bien, il faut le dire, moi je dis les choses, même si ça ne plaît pas à tout le monde, qui vont au contact des gens. Et puis, je vous ai parlé des cités minières tout à l'heure, vous savez, les gens sont rassurés quand ils voient les véhicules de police dans leur cité, parce que nous avons aussi une population vieillissante, comme nous avons aussi une population de jeunes, malheureusement, qui n'ont pas de travail et qui ont peut-être aussi besoin d'être encadrés, d'être épaulés, d'être conseillés. Je ne dis pas que c'est la police qui doit faire ça, mais je sais que la police y participe et y participera. Je voudrais finir mon mandat sans plus que, avec tous les gens qui respectent le code de la route, tous les gens qui respectent les parkings, etc., 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 tous les gens qui respectent, chose de simple pour montrer l'exemple, qui respectent les trottoirs, si vous voyez ce que je veux dire avec le petit toutou, et que les poubelles qu'on sorte pas le bonjour, et que les chocs crèvent les paquets la nuit, etc., etc. C'est ça que ça aussi, ça fait partie de la prévention de la prévision. Si on n'est pas parvenu avec la prévention à résoudre les problèmes, enfin la répression. J'avoue, ça m'est déjà arrivé, et s'il le fallait, ça arrivera encore.
C'est sur cet avertissement que s'achève ce compte-rendu. Nous voilà donc au fait de la création de cette police de sécurité du quotidien, qui aura donc pour mission de rénover des liens de coopération, de redonner confiance dans l'action républicaine de la police, de revenir au fondement de son action sociale et à une communication de terrain, de renforcer, enfin et surtout, l'autorité de l'État. Retrouvez toutes nos émissions et reportages sur microrebelle.fr.
Nous sommes toujours sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je vous rappelle que les reportages de Microrebelle, comme ceux que vous venez d'écouter concernant la marche pour le climat et la police de sécurité du quotidien, peuvent être podcastés et téléchargés sur notre site microrebelle.fr. Pour terminer ce Microrebelle hebdo, je vous laisse une nouvelle fois avec le groupe toulousain Bruit qui court et son album Que la nuit m'emporte. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Leurs promesses et leurs réponses. Dire ce qui aujourd'hui brûle ma gorge, nous sommes être une vraie réponse. Être, c'est se donner la force de réussir tous ensemble à produire quelque chose, à inventer demain. Inventer demain.
Laisse-les dire, laisse-les croire, laisse-les penser que nous ne serons jamais à la hauteur. Laisse-les rire. Continue d'inventer. Refuse d'être un de plus pour devenir un de moins. Et répète-leur qu'ils ne te font plus peur, non.
Qu'ils ne te font plus peur.
Laisse la meute, laisse les chiens, laisse-les hurler le pire, laisse-les, non.
Ne les écoute plus. Ne les écoute plus. Leur montrer que nous sommes là, que nous sommes politiques. Dire je suis un artiste. Refuser l'abandon de soi et de ce que l'on représente. Créer pour exister et refuser. Dire non à leurs pratiques et non à leurs subventions. Le dira à ces gens qui n'en bas ne me plaisent pas, non. Mais qui ne représentent pas les idées pour lesquelles je vis, pour lesquelles j'interviens dans l'existence, pour lesquels je me bats.
Laisse-les dire, laisse-les croire, laisse-les penser que nous ne serons jamais à la hauteur. Laisse-les rire et continue d'inventer. Refuse d'être un de plus pour devenir un de moins. Et répète-leur qu'ils ne te font plus peur, non. Qu'ils ne te font plus peur. Un jour viendra où le fric que l'on fait couvrira leurs mensonges, pensera nos blessures. Alors laisse.
final, il restera quoi? Il restera qui? Il restera quoi de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a dit? De tout ce qu'ils nous ont jeté à la gueule et vendu comme progrès? Au final, qu'est-ce qu'ils diront de nous? Pour qu'on va passer? Pour une génération qui a su être? Pour une bande de bons à rien qui n'a pas vu le monstre naître? Qui n'a pas vu le drame se construire petit à petit sous ses yeux à découvert? Qui n'a pas su trouver le courage pour construire une violence collective? Une violence réfléchie hors la loi? Une violence d'idées et de combat? Imaginez la violence comme n'acceptant plus l'inacceptable, comme n'acceptant plus les traîtres et les cadres imposés par ces traîtres. Ne plus accepter l'inertie, chercher le mouvement par le chaos, par l'explosion populaire et révolutionnaire, par le soulèvement de ceux qui ne supportent plus de voir ce mur arriver et de ne rien faire si ce n'est fermer les yeux. De ne rien faire si ce n'est fermer les yeux. Au final, il restera quoi? Il restera quoi de nos luttes incessantes? Il restera quoi de ces heures à marcher dans le vide et le silence, sous le regard abusé de ceux qui ont abandonné? Il restera quoi de ces discussions sans fin, à essayer de mettre du sens là où il n'y en a plus? Il restera quoi de ces célébrations républicaines, de ces votes obscènes? Il restera quoi de nos morts, de nos sœurs, de nos frères, abattus et oubliés? Je suis désolé. Il y a des violences parfaitement légitimes. Parfaitement légitime. Parfaitement légitime. Parfaitement légitime. Passer la nuit, pouvoir rêver devenir autre chose. Le jour se lève, qu'avons-nous fait mon frère? Nous avons crié implorant tous les vents, n'importe comment. Et personne ne nous a jamais dit comment il fallait faire. Nous nous sommes perdus dans leur vacarme, dans ce bruit étouffant que nous aimions plus que tout. Et le jour se lève, qu'avons-nous fait mon frère? Ils sont devenus fous et nous là au milieu, nous ne pouvons rien y faire. Et nous là au milieu, nous ne pouvons rien y faire. Et nous restons là, nous restons là et debout, toujours debout. Un jour viendra mon frère. Et nous restons là, nous restons là, mais debout, toujours debout. Et un jour viendra mon frère.
balado se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.